Merci. On te loue pour qui tu es. Merci pour cette nouvelle journée que tu as créée. Seigneur, vraiment, on s'attend à toi. Merci pour cette louange que nous avons pu t'offrir. Si nous pouvons t'offrir ces moments-là, c'est parce que toi, tu nous précèdes. C'est parce que toi, tu nous permets de les vivre. Toute cette vie que nous avons en nous, c'est toi qui nous la donne. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu vas faire maintenant. Vraiment, nous attendons à toi. Je te remets chacun d'entre nous ici. Seigneur, que tu agisses au plus profond du cœur de chacun. Merci pour ce Dieu merveilleux que tu es. Amen. Est-ce que tu as les bons appuis? Sur quoi tu t'appuies dans ta vie? Sur quoi tu t'appuies dans ta vie dans un monde où du jour au lendemain, tout un pays peut sortir de tout un système. Vous voyez de quoi je parle, hein? Voilà, c'est bien, tu suis les infos. Et puis chambouler du coup tout un les marchés économiques. Nous sommes dans un monde si fragile, on se demande comment l'Écosse va réagir, etc. Nous sommes dans un monde si fragile. Alors il s'agit d'avoir les bons appuis. Nos vies individuelles, nos vies familiales sont quelque part si fragiles aussi. Du jour au lendemain, il y a des choses qui peuvent s'effondrer. Il y a des choses qui nous échappent. On ne maîtrise pas tout. Mais heureusement, Dieu est là. Heureusement, Dieu est là. Et comment dans un monde tel que celui dans lequel nous vivons, vivre notre vie justement sans Dieu, sans cet appui qu'il est, sans ce refuge, cette forteresse, comme dit la parole. Jusqu'à présent, sur plusieurs dimanches, depuis le début de l'année, j'ai parlé de la dépendance à Dieu. Cette importance de dépendre de Dieu. Et ce matin, tu peux actionner le diaporama, Danilo, s'il te plaît, merci. Et ce matin, j'aimerais terminer sur ce thème en récapitulant tout ce qu'on a pu voir ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire finalement dépendre de Dieu? Quand on dépend de quelqu'un, c'est que...
On est esclave.
Ouais, hein, t'as une image de la dépendance, Marie-Jo. Alors, est-ce qu'un bébé est esclave de ses parents? Quand on dépend de Dieu, on a une confiance totale en Dieu. On dépend de lui pour tous nos besoins. De la même manière qu'un bébé, il dépend entièrement de ses parents. Si les parents ne sont pas là pour le nourrir, le bébé ne sera pas nourri. Si les parents ne sont pas là pour lui donner de la chaleur, le bébé aura froid. Si les parents ne sont pas là pour donner de l'amour à l'enfant, l'enfant ne se sentira pas aimé. Et c'est ça, être dans une dépendance à Dieu, dépendre de Dieu, c'est lui remettre entièrement notre vie, considérer que c'est lui vraiment qui répond à nos besoins. Et tout au long de ces dimanches, nous étions revenus sur différentes rencontres que des hommes et des femmes dans le Nouveau Testament, durant le ministère de Jésus, ont faites avec lui. Et j'aimerais revenir sur chacune de ces rencontres. Ça marche. Alléluia. Donc il y avait une des premières rencontres, c'était celle de Jésus qui est ici, on ne le voit pas trop bien. Si tu peux éteindre la lumière, si quelqu'un peut éteindre la lumière, je ne sais pas si on verra mieux. Mais ce jeune homme riche qui était chef de synagogue, qui était un leader religieux, un leader de son peuple, qui arrive devant Jésus en lui disant que voilà, il accomplissait déjà toute la loi, il respectait déjà toute la loi. Comment est-ce qu'il pouvait obtenir la vie éternelle? Comment il pouvait être sûr qu'il allait vivre avec Dieu après sa mort? Et il avait tellement envie de plaire à Dieu. Il faisait tellement d'efforts pour plaire à Dieu. Quelque part, il se reposait tellement sur lui-même, sur ses performances, que quand Jésus lui a dit « Mais ce qui est important, si tu veux vraiment avoir la vie éternelle, c'est Non pas que tu t'appuies sur tes performances, non pas que tu t'appuies sur ce que tu as construit matériellement dans ce monde. Ce qui est le plus important, c'est les relations. Ce qui est le plus important, c'est ce que tu vas donner aux autres. Et pour cet homme, ça passait par vendre ses biens et les donner aux pauvres. Mais cet homme n'a pas pu. Pour lui, dépendre de Dieu, ça passait par lâcher tout ce sur quoi il s'appuyait dans ce monde, tous ces trésors qu'il a bâtis ici-bas et sur lesquels il s'appuyait. Et il est parti triste parce qu'il n'a pas pu. Quels sont les trésors ici-bas sur lesquels nous appuyons? Parfois trop, et du coup, on ne laisse pas de la place à Dieu. On ne laisse pas la place à Dieu. Et pourtant, Jésus nous dit, voilà, amassez-vous des richesses dans le ciel. Là, ce sont les vraies richesses. Et quand il dit ça, il parle notamment de tout cet amour que l'on peut construire entre nous par lui. Il y a eu aussi un moment, on était revenu, où Jésus, dans la synagogue à Capernaum, le son il tombe de temps en temps, non ? Dans la synagogue à Capernaum, il y avait un homme qui avait une main sèche, c'est-à-dire une main paralysée. Et c'était un jour de sabbat. Et là, Jésus se dirige vers cet homme. Et qui est-ce qui l'attendait au tournant ? C'était les pharisiens, qui avaient vu déjà tout ce qu'il avait accompli. Et attention, c'est un jour de sabbat. On ne transgresse pas le jour du sabbat, selon leur tradition. Si on guérit un homme, ça veut dire qu'on travaille. Et on ne travaille pas le jour du sabbat. Voilà, ils étaient tellement enfermés dans leur tradition religieuse, dans leur convention, dans le regard que eux ils avaient de Dieu et de sa parole, selon leur humanité, selon leur propre sécurité, que du coup, ils n'étaient même pas capables de voir un homme qui était dans le besoin et dont que Jésus a sorti de sa condition misérable. Parce qu'en étant, en ayant la main sèche, cet homme, il était dans une condition sociale, comment est-ce qu'il pouvait travailler ? Etc. Et ça, ils ne le voyaient plus. Comment, parfois, nos traditions religieuses, c'est-à-dire pas ce que dit la parole, mais nous, ce que nous croyons en comprendre, ou ce que nous construisons, qui n'est pas juste, parfois, autour de cela, autour de la parole de Dieu, et comment, des fois, c'est ça, c'est plus ce que nous avons dans la tête que ce qui est écrit, que ce qui est vraiment dans la parole qui va nous guider. Ces hommes, ces pharisiens, ces autorités religieuses qui étaient censées connaître la parole, passaient complètement à côté de ce qui était la véritable volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de faire du bien à celui qui en a besoin. La volonté de Dieu, c'est d'aimer, que nous aimions notre prochain. C'est le commandement le plus important dans la parole. Et donc, ces hommes n'ont pas pu entrer dans cette dépendance à Dieu. Ils n'ont pas pu confier leur vie à Jésus. Au contraire, ils l'ont même rejeté. Et puis, il y a eu aussi cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Cette femme qui elle, était tellement blessée dans la vie, qui avait tellement de blessures dans sa vie, sauf que le problème, c'est qu'elle essayait de les réparer elle-même. Elle essayait de les réparer comment ? En allant trouver l'affection dans les bras d'un homme. Sauf qu'un homme, l'homme idéal n'existe pas, désolé messieurs, comme la femme idéale, désolé mesdames. Et voilà, et comme l'homme finalement qu'elle trouvait, ça n'allait pas, il fallait en trouver un autre, etc., etc. Finalement, elle essayait de combler sa vie, le vide de sa vie, elle-même, jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus-Christ. Et jusqu'à ce qu'elle l'aille trouver en lui ce dont elle avait besoin pour véritablement restaurer ses blessures et trouver vraiment du sens à son existence, pour trouver vraiment pour combler, remplir ce vide. Si tu as un vide dans ta vie, il n'y a que Jésus-Christ qui peut le remplir. Et puis, il y a eu aussi cet homme, cet infirme au bord de la piscine qui attendait une improbable guérison. Mais sauf qu'il attendait finalement, en étant plongé dans cette piscine, qu'il puisse guérir, mais comme il était infirme, il ne pouvait pas y aller lui-même, et puis il n'y avait personne finalement pour l'emmener. C'était un homme finalement qui était personne ne le regardait. Personne ne le regardait. Un homme qui était complètement négligé. Et un homme qui, du coup, à quoi ça sert de vivre? Il y avait une sorte d'espoir dans sa vie, mais finalement, est-ce qu'il croyait vraiment qu'il pouvait guérir? Plus vraiment. Il était résigné, cet homme. Il n'y avait plus de désir dans sa vie. Jusqu'au moment où Jésus est venu dans sa vie. Et là, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux? Il a osé défier cet homme. Jésus est venu défier cet homme. Et finalement, cet homme s'est dit, mais oui, je peux guérir. Parce que je crois en qui est Jésus. Je crois en cet homme. Et de nouveau, la vie est venue en lui. Et cet homme s'est relevé. Cet homme a confié sa vie à Jésus-Christ. Il est rentré dans cette dépendance à Dieu. De la même manière que la Samaritaine est rentrée dans cette dépendance à Dieu. Ils lui ont fait confiance. Et ils ont vu les choses changer dans leur vie. Il y avait aussi cette femme qui était malade depuis 12 ans. 12 ans, qu'est-ce que c'est long, 12 ans. 12 ans où son corps échappait complètement à son contrôle. Elle avait des pertes de sang depuis ces 12 années. Et ce n'est pas un médecin qui a pu l'aider. Elle avait vu tant de médecins jusqu'au jour où elle croit Jésus. Elle savait les miracles qu'il avait faits. Et elle s'est dit, mais oui, c'est lui le Messie. C'est lui qui est venu comme sauveur du monde. C'est vraiment lui le sauveur du monde. C'est par lui que je peux m'en sortir. C'est lui qui a la vraie réponse. C'est lui qui est la clé. C'est lui qui a la vraie solution. Elle a touché les pans de son manteau. Et là, la perte de sang qui agissait depuis 12 ans, d'un seul coup s'est arrêtée, net. Et dans cette même histoire, au moment où cette femme touchait le pan de la robe de Jésus, juste avant, il y avait un homme qui était allé le voir, un père. Un père qui était en train de vivre ce qu'aucun parent ne veut vivre. Il était en train de perdre sa fille, son unique fille. Ça, c'est ce qu'aucun parent ne veut vivre. Et lui, il était en train de le vivre. Et quel était son choix? Comment est-ce qu'il pouvait faire? Est-ce qu'il a décidé de se résigner face à la mort? Non, il ne s'est pas résigné face à la mort. Il a décidé de croire. Il a décidé de croire en qui était cet homme. En qui était ce Jésus, Dieu incarné. Et là, il a vu le miracle s'accomplir. Il a vu sa fille ressusciter. Parce que sa fille, entre-temps, le temps qu'ils aillent chez lui, sa fille était morte. Et il a vu, et Jésus est venu là. Il a chassé tous ceux qui pouvaient amener une ambiance de mort, une atmosphère de mort. Tous ceux qui pouvaient être résignés face à la mort. Et là, jeune fille, lève-toi. Et la jeune fille s'est levée. Et cet homme qui a choisi de faire confiance à Dieu, qui a choisi de dépendre entièrement de lui, a vu la vie de Dieu se manifester. Il a choisi la vie de Dieu se manifester. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Quelles que soient les situations que l'on aborde, je ne sais pas quelle est la situation particulière qui est dans ta vie, je ne sais pas pour tous. Et comment tu abordes cette situation particulière? Est-ce que tu l'abordes finalement dans le désespoir ou dans tu te dis que ça jouera pas, tu vas jamais y arriver? Ou est-ce que tu l'abordes dans la confiance? J'ai toujours le choix de faire confiance ou pas. J'ai toujours le choix de faire confiance ou pas. On a vu cette femme samaritaine qui avait toutes ses blessures dans sa vie. Est-ce que je fais le choix que mes blessures, même si ça prend du temps, parce qu'il y a des choses qui prennent du temps, il y a des guérisons qui se font comme ça, il y a des guérisons qui prennent du temps. Est-ce que je fais le choix de faire confiance à Dieu pour me guérir? Est-ce que je fais le choix de faire confiance à Dieu pour me sortir d'une situation dont moi, de toute façon, je ne peux pas me sortir, je ne peux rien faire parce que je ne maîtrise pas, comme Jaïrus, cet homme qui avait perdu sa fille? On a toujours le choix. Mais voilà, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident d'être dans une relation de confiance. Ce n'est même avec Dieu. La confiance, c'est quelque chose qui se construit. C'est un processus. On ne fait pas confiance du jour au lendemain à quelqu'un. Regardez-vous, regardez-nous. Est-ce que vous faites confiance aveuglément? Je ne pense pas. La confiance, elle se construit. C'est tout un processus. Et c'est un processus, Dieu nous en parle quand il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, c'est-à-dire c'est physique, si vous ne vous tournez pas. C'est pas la conversion au sens de, pour ceux qui connaissent, la métanoïa, où c'est un changement de mentalité. Là, c'est tout, c'est corps, âme et esprit que ça concerne, c'est tout le corps. C'est se tourner physiquement, c'est un verbe qui revient dans le Nouveau Testament. À chaque fois quand Jésus se tourna, c'est ce verbe-là. C'est se tourner et devenir comme des enfants. Si vous vous convertissez et vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et entrer dans le royaume de Dieu, c'est avoir confiance dans le Seigneur. Quand Jésus prend un enfant et dit, mais celui qui veut être grand dans le royaume de Dieu, bah, qu'il soit comme cet enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, il fait naturellement confiance à ceux qui s'occupent de lui. Sauf que ça, c'est contre nature, finalement, ce que Dieu nous demande. Il nous dit de redevenir comme des enfants. Nous, ce n'est pas notre logique. Nous, notre logique, c'est qu'on grandit, on devient adulte, et puis on gère, on s'occupe des choses. C'est ça, notre logique. Et la logique de Dieu est complètement inverse à la nôtre. C'est contre nature, ce qu'il nous demande. Et même à un moment, un grand sacrificateur qui siégeait au Sanhédrin, l'assemblée juive, à ce moment-là, au temps de Jésus, est allé voir Jésus, lui a dit, mais ils ont discuté ensemble, il lui a dit, mais comment, Jésus lui parle de nouvelle naissance, de naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est-à-dire, c'est naître de l'esprit. C'est être régénéré par Dieu. C'est finalement vivre cette vie dans laquelle nous étions avant que l'humanité se détourne de Dieu. Et il lui a dit, mais comment est-ce qu'on peut naître de nouveau? Il faut retourner dans le sein de sa mère? C'est incompréhensible pour l'homme. C'est contre nature de faire confiance à Dieu. C'est contre nature, contre notre nature pécheresse, contre toute cette nature que nous avons construite, qui a été construite aussi par le monde, au travers du monde, qui est déchu, que c'est contre nature d'aller dans cette dépendance vers Dieu. Donc c'est normal. C'est normal qu'il y ait des moments où nous ayons confiance. Il y a des moments où nous n'ayons pas confiance. Ces hommes et ces femmes dont nous avons parlé, nous avons un moment de leur vie. Un moment de leur vie. Est-ce qu'ils ont tout le temps fait confiance à Jésus? Est-ce qu'ils ont tout le temps fait confiance à Dieu? On n'en sait rien. Là, on l'a vu, ils l'ont fait. Et je dis ça ce matin aussi pour que nous ne nous culpabilisions pas. 1, 2, 3. Pour que nous ne prenions pas un fardeau sur nous que nous n'avons pas à porter. Cette confiance à Dieu, c'est normal qu'il y ait des moments où on n'y arrive pas. Mais c'est quelque chose qui se construit. Et toi, tu en es où? Tu en es où de cette confiance avec Dieu? Où est-ce que tu en es dans ton trajet avec le Seigneur? Où est-ce que tu en es dans la situation particulière qui est la tienne? Est-ce que là, tu as plutôt lâché? Ou est-ce que, au contraire, tu continues, tu persévères? Vraiment, je t'encourage. Je t'encourage à saisir sa main, à continuer de tenir sa main. En particulier, si tu es dans une situation qui est difficile depuis longtemps. Je crois que faire confiance à Dieu, c'est ce qui change tout. Pas toujours. Des fois, il y a des choses qui changent comme ça. Je ne vais pas dire du jour au lendemain. Il y a des choses, il y a des interventions de Dieu qui sont qui nous surprennent. Et puis, il y a aussi des interventions de Dieu qui se font dans la durée. Et je disais que c'est un processus que de faire confiance à Dieu. Mais c'est le processus. C'est ce que Dieu il a choisi pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions être accomplis en lui. C'est ce que dit Jacques. Il parle de l'épreuve de votre foi. L'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. L'épreuve de la foi, l'épreuve de la confiance. La confiance, comment est-ce qu'elle grandit ? La confiance avec Dieu, c'est justement au travers des épreuves que nous vivons. C'est pour cela qu'elles sont là, ces épreuves. Et les épreuves qui sont dans ma vie, ce ne sont pas les tiennes. Et tes épreuves ne sont pas les miennes. Nous avons chacun nos épreuves. Et ce ne sont pas n'importe quelles épreuves. Ce ne sont pas n'importe quelles épreuves que tu vis. Ce sont les épreuves au travers duquelles tu vas pouvoir construire cette confiance avec Dieu encore plus fort. Et on est tous dans un trajet où, voilà, continuellement, finalement, on est devant cette question, est-ce que je fais confiance ou pas à Dieu ? Moi, j'ai grandi dans un univers où je voyais, où on compte beaucoup sur soi. On compte beaucoup sur soi et au point où on ne fait pas confiance aux autres. Vaut mieux compter sur soi plutôt que de faire confiance aux autres. Je voyais ma mère qui était tout le temps... j'ai des parents qui je ne voyais jamais vraiment se détendre, tout le temps en train de travailler. Ma mère qui était tout le temps en train de faire son ménage, elle appelait mon ménage dans sa maison. Mon père qui était tout le temps en train de bosser. Mon père qui avait cette phrase, qu'il a toujours un peu d'ailleurs, « Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. » Le souci, c'est quand vous êtes avec... Moi, j'ai grandi avec des paroles comme ça. J'ai grandi dans cet univers-là. Et le souci, c'est que quand vous êtes avec cela, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Bah, quelque part, tout ce qui va se présenter à vous, vous allez le voir comme un problème. Tout va vous charger. Et puis, donc, l'enjeu, c'est de trouver la solution. Et vous allez essayer tout le temps de trouver la solution par vous-même. Parce que quand on est avec une phrase comme ça, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, et qu'on ne fait pas confiance aux autres, on peut se tourner que vers soi. Et moi, c'est quelque chose qui m'a imprégné au point où, encore aujourd'hui, il faut que je chemine avec ça. Ou quand, certaines nuits, avant, c'est ce que je vivais, à 2, 3 heures du matin, je me réveille, et puis dans ma tête, il y a une espèce d'usine qui s'ouvre avec des ouvriers qui sont en train de bosser dans cette usine. Et voilà, et je pense à ça. Et puis moi, je vais vers cette usine en pyjama et en bonnet de nuit. Je leur dis, oh les gars, il est 2-3 heures du matin là, c'est pas le moment. Mais ça s'arrête pas de tourner. Et je vivais, et jusqu'à il y a quelques temps, mais je vivais des nuits où je pouvais me réveiller à 2-3 heures du matin sans me rendormir. Alors après, il faut assurer la journée, et puis surtout quand ça fait plusieurs nuits de rang comme ça. Tout ça parce que voilà, il y a quelque chose en moi où mon cerveau, il tourne. Et c'est à moi de trouver la solution. Jusqu'à ce que je me dise, en pyjama et en bonnet de nuit devant ces ouvriers, je me dis, bon, finalement, je vais aller voir le patron de l'usine. Et là, j'ai pris, parce que j'arrivais même pas à prier. Et puis à un moment, j'ai pris un cahier. Puis j'ai écrit tout ce qui me venait. Puis je dialoguais avec Dieu. Puis je lui ai dit toute la confiance que j'avais en lui. Je lui ai dit la confiance dans le fait qu'il me restaurait au niveau de mon sommeil. Je lui ai dit la confiance dans le fait qu'il transformait ma vie. Je lui ai dit ma confiance dans le fait qu'il s'occupe de l'Église. Qu'il s'occupe de tous les domaines qui concernent ma vie. Et là, je déposais. Et là, j'ai vu les choses changer. On a tous un trajet qui est le nôtre. Je ne sais pas quelles sont tes épreuves. Mais à chaque fois, tu vas te retrouver dans une situation où tu auras le choix. Est-ce que je marche dans la confiance avec Dieu ou est-ce que j'essaye de m'en sortir par moi-même? Et ça, c'est ce qui nous construit individuellement. C'est ce que dit Jacques. Le fait qu'on soit éprouvé, on est patient, ça exerce notre patience, et c'est ça du coup qui fait qu'on est rempli de Dieu, c'est ça qui fait qu'on est rendu à l'image de Dieu. Et c'est comme ça aussi que le miraculeux, il arrive. Quand on est dans cette relation de confiance avec Dieu, comme on a vu pour cette Samaritaine, comme on a vu pour ce père Jaïrus, où ils ont vu la vie de Dieu qui peut, jusqu'où la vie de Dieu peut aller à partir du moment où on est dans cette relation de confiance avec Dieu. Et ce processus, il ne concerne pas que nos vies individuelles. Ce processus, il concerne l'Église. Il concerne la communauté que l'on forme. Quand Paul dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. La foi, la confiance, l'unité de la foi. L'unité de la foi, c'est cet état où on dépend vraiment de Dieu. Et pas seulement individuellement, où on dépend de Dieu ensemble. À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. À partir du moment où on fait confiance, on dépend totalement de Dieu, ensemble, qu'on chemine ensemble sur ce chemin-là, et ben, en tant qu'Église, on va être rendu à la stature parfaite de Christ. Cette confiance, c'est le processus par lequel Dieu il nous fait grandir, individuellement et communautairement. Et sur quoi je fixe mes regards? Sur quoi je fixe mes regards? Est-ce que je me concentre sur le fait que voilà, nous sommes tous unis en Christ, que nous le recherchons tous? Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Je ne sais pas dans quelle mesure ça vous touche ou Dieu vous touche au travers de ce que je suis en train de vous dire. Mais s'il y a des personnes ici qui ne connaissent pas Jésus-Christ, vraiment, je vous invite vraiment à l'accueillir dans votre vie. Parce que c'est lui qui peut faire la différence dans ta vie. C'est lui qui peut faire la différence dans ta vie là où toi tu en es. Ce avec quoi tu es aux prises, c'est lui qui peut faire la différence. Et je disais que dans l'Église, c'est à partir du moment où nous marchons avec confiance que nous grandissons aussi en Église. Quels sont les défis qui nous concernent en tant qu'Église? Relationnellement, on a toujours des efforts à faire. On a toujours à grandir. Sur quoi est-ce que je me concentre? Est-ce que je me concentre sur ce qui nous unit? Est-ce que je me concentre sur le fait que Dieu, il nous guide en tant qu'Église? Moi, je le crois. Ou est-ce que je me concentre sur ce qui ne va pas dans l'Église? Parce que, je suis désolé, mais il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Tant que Jésus ne sera pas là, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Où est-ce que je mets mon focus? Où est-ce que je mets mon appareil photo? C'est sur quoi que je fixe mes regards? Est-ce que je fixe mes regards sur ce qui ne va pas? Ou est-ce que je fixe mes regards sur ce qui va et ce qui nous unit? Sur quoi est-ce que je me concentre? Depuis des années, on vous rabat les oreilles avec un local. Il y a eu plusieurs projets qu'on a vers lesquels on a essayé d'aller qui n'ont pas abouti. On ne sait pas ce qui va se passer pour le prochain. Moi, je décide de faire confiance. Mais c'est sûr que si on veut changer de local juste pour changer de local, ça n'a aucun intérêt. Si c'est juste pour avoir une salle plus grande, ça n'a pas d'intérêt. Autant rester là. Mais si c'est pour que la vie de Dieu s'y déploie encore plus fort qu'ici, alors moi, je dis amen. Parce que qu'est-ce qu'on regarde derrière ce désir, cette aspiration avoir un nouveau local? Est-ce que c'est juste avoir une salle plus grande ou est-ce qu'on le regarde, et moi c'est ce que je vois, c'est ce que je crois, c'est cette aspiration que nous avons, nous, à voir Dieu se manifester encore plus fort, à glorifier Dieu. À glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que, enfin, je vois par exemple... Avec les jeunes, on a mis sur pied des soirées Génération HD où à chaque fois, il faut qu'on trouve une salle ici. C'est toujours compliqué. Et je me dis, waouh, si on peut ouvrir une salle pour ces moments où on veut justement réunir la jeunesse dans toutes les montagnes, si on peut leur offrir ça, mais c'est, qu'est-ce qui va en découler de ça? Qu'est-ce qui va en découler? Les jeunes, c'est dans les âges qu'ils sont, aux alentours d'une vingtaine d'années, c'est là qu'il y a le plus de conversion. C'est là qu'il y a le plus de conversion. Qu'est-ce que nous ciblons en tant qu'Église? Je ne dis pas qu'il faut s'occuper que des jeunes et laisser tout le reste. Mais où est-ce que nous mettons aussi des priorités? Moi, je pense à, par exemple, comme je parle de local, je pense à un local où, voilà, qui soit aux couleurs des jeunes aussi, où il y a une modernité qui attire d'autres jeunes. Et je pense à tout ce qu'on pourrait vivre dans cet endroit. Quelqu'un parlait de quelque chose pour les migrants. Moi, je pense à un bâtiment fonctionnel où on peut... où on peut offrir des choses à la population, où on peut offrir des choses à la ville, où on peut offrir des choses aux couples, où on peut offrir des choses aux familles, aux parents, où on peut aider les parents à élever leurs enfants selon des principes bibliques, où on peut aider des couples à vivre leur vie de couple selon des principes bibliques. Voilà, moi, voilà ce que j'imagine. Mais Dieu, il dépose des rêves en chacun d'entre nous. Derrière cette idée d'un local, il y a l'aspiration. Il y a l'aspiration, et c'est ça qu'il faut entendre. Là, c'est cette forme. Pour moi, le local est une forme. Mais ce que nous avons à entendre, ce que nous avons à laisser se manifester et se concrétiser, c'est ce que Dieu dépose dans notre cœur de sa vie. Et je sais que le Seigneur a de grandes choses. Pas seulement pour notre Église. Le Seigneur, il a de grandes choses pour cette ville. Il a de grandes choses pour cet endroit où nous sommes. Mais il désire passer au travers de nous. Et pour ça, il a besoin que nous lui fassions confiance. Il a besoin que nous nous centrions sur lui. Nous n'y arriverons pas par nos propres forces. Sinon, nous sommes en train de batailler entre nous. On ne peut y arriver qu'en ayant les yeux fixés sur lui. Lui, c'est le chemin. Lui, il a un plan. Lui, il a le bon plan. Amen. On va juste terminer ce moment de message dans la prière. Ouais, Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour qui tu es. Je te remercie parce que tu es là. Seigneur, je te remets ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Je te remets ce moment de message. J'ai essayé de donner ce que toi, tu as déposé dans mon cœur. Je te le confie. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va opérer en chacun d'entre nous. Mais Seigneur, je fais confiance à ta vie. Je fais confiance à ton esprit. Nous voulons te faire confiance, Seigneur Dieu. Je te remercie pour ce chemin. J'ai envie de dire cette table que tu dresses devant nous. On va prendre la Sainte Cène. C'est cette table que tu dresses devant nous. Ça, c'est un moment de repas. C'est un moment où on partage le repas. C'est un moment où on construit la confiance, justement, ces moments de repas. Et Seigneur, je te prie que tu nous conduises dans ce moment. On va venir te déposer chacun ce qu'on a à te déposer. Je te prie, Seigneur, de guider chacun à lâcher ce qui empêche de faire confiance. Ce qui empêche d'aller plus loin dans cette relation avec toi. Je te remercie pour ce que tu nous montres dans ta parole, pour ce Jaïrus qui voit sa fille ressuscitée, pour cette femme malade depuis 12 ans qui voit la maladie s'arrêter et un nouveau corps, une nouvelle condition sociale dans sa vie. Je te remercie pour toutes ces histoires, tous ces hommes et ces femmes que tu as rencontrés et au travers desquels tu nous dis, mais tout ton amour et que c'est possible et que tu as tout donné pour que nous puissions vivre cette vie avec toi. Je pense à cet homme qui était paralysé, qui a été amené par 4 hommes et qui n'était plus paralysé quand il t'a rencontré, qui est sorti de cette paralysie. Seigneur, qu'est-ce qui nous paralyse? Je te prie vraiment, dans le nom de Jésus, je prie contre ce qui peut nous paralyser dans nos vies à chacun. Je proclame ta vie, Seigneur. Je proclame ta vie sur toutes nos situations. Je proclame ta vie sur notre Église. Et je te remercie, Seigneur, de changer nos mentalités. Je te remercie, Seigneur, de changer nos compréhensions. Je te remercie, Seigneur, de tout ce que tu veux faire dans toute notre vie, corps, âme et esprit. Et vraiment, Seigneur, je te remercie pour ce chemin de confiance dans lequel nous allons pouvoir marcher ensemble, renouvelés. Ce chemin de confiance dans lequel chacun va pouvoir marcher par rapport à sa propre vie. Je te remercie de renouveler ceux qui ont besoin d'être renouvelés. J'appelle ton renouvellement, Seigneur Dieu. Merci pour qui tu es, oh notre Dieu. Merci parce que c'est toi qui conduis la marche, c'est toi qui es devant. Merci Seigneur de nous donner ce privilège de te suivre. Amen.